Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
C'est une deuxième rencontre cette semaine au micro pour intervenant. Je reçois Jean-Marie Delbos, auteur de ce livre paru récemment aux éditions Le Duc, Mon enfance à Bétharram. Vous l'avez compris, c'est toute cette affaire de Bétharram qui est retranscrite à travers aussi le témoignage de Jean-Marie Delbos. Bonjour Jean-Marie.
Bonjour.
Alors, ravi de vous retrouver. Vous n'êtes pas venu tout seul dans ces studios. Vous êtes accompagné par une, non pas une victime de l'affaire de Bétharram, mais une victime
d'un prêtre.
Je vous propose de présenter Marie-Hélène. Bonjour Marie-Hélène.
Bonjour.
Alors, vous êtes une victime, mais pas de, c'est pas de l'affaire de Bétharram. Vous avez 65 ans aujourd'hui. Vous avez quelque peu perdu votre innocence, si je peut m'exprimer ainsi à l'âge de 7 ans. Et je souhaitais vous interroger sur cette question autour, donc, il y a des bourreaux, il y a des criminels, il y a des victimes. Vous êtes aujourd'hui, et tous les deux d'ailleurs, deux victimes reconnues. Vous êtes, Marie-Hélène, restée longtemps dans le silence. Est-ce que vous pouvez avoir une prise de parole et nous expliquer un peu votre cheminement ?
J'ai été victime à l'âge de 7 ans par le curé du village qui avait proposé à mes parents de m'apprendre à jouer de l'harmonium. Et ma maman lui demandait si ça se passait bien. Et le prêtre lui avait répondu que je n'étais pas assez docile. Ma maman m'a grondée parce que je refusais d'obéir au prêtre. Obstinément, j'ai été punie. Et donc, je n'ai pas parlé, j'ai continué à aller à la musique jusqu'à l'âge de 14 ans et à faire ce qu'il me disait, sans comprendre, bien sûr. Et après, j'avais une enfance apparemment normale, mais à l'âge de 16 ans, le monde s'est écroulé totalement. J'étais en classe de première D. Ça marchait très bien et tout d'un coup, je ne pouvais plus me concentrer, je pleurais, je ne pouvais pas tenir le stylo, je ne pouvais plus continuer. Et c'est là que j'ai vu pour la première fois un psychiatre qui m'a donné des médicaments pour continuer à l'école. Et moi, je pensais qu'on me laisserait me reposer, qu'on me soignerait. Ça n'a pas été le cas, on m'a fait finir l'année. Passé le français du bac. Et après, j'ai été très, très, très malade. Dissociée, on va dire maintenant. Mais à l'époque, je ne savais pas. On voulait me mettre à l'hôpital psychiatrique. Et mes parents voulaient que j'aille en terminale. Mais j'en étais incapable. Et donc, je suis restée à la maison. Et j'ai eu la chance d'avoir un petit frère qui est né à ce moment-là. Au moment où moi j'ai arrêté l'école, qui est né avec une trisomie 21. Et comme par hasard, mon frère est né le même jour que mon prédateur, le 26 décembre. L'un pour me faire du mal, l'autre pour me faire du bien. Et donc je me suis occupée de lui. Et puis je ne savais pas ce que j'avais. J'ai été soignée par des psychiatres tout ce temps-là. Et c'est rien qu'avec une psychanalyse que j'ai compris que j'avais été agressée sexuellement. Et j'étais un petit peu mieux à partir de là. Et j'ai voulu essayer de m'intégrer. Parce que jusque-là, j'étais reconnue adulte handicapée dans l'impossibilité de trouver un emploi du fait de mon handicap. Parce que je ne peux pas me servir de mes mains normalement. Parce que le curé a pris mes mains de force. Et il les a forcés. Et ce que j'ai dit à l'INIR, c'est comme si on m'avait mis de force un bâton de dynamite dans les mains, qu'on m'avait contraint à l'allumer, que ça m'a explosé au visage en m'arrachant les mains. Et depuis mes mains, je ne peux pas m'en servir sur commande comme je veux. Et j'ai 65 ans et ça continue. J'ai été reconnue par l'INIR en début 2024. Mais à ce moment-là, à cause de l'amnésie, j'avais pas encore pris conscience des viols par fellation. Ça va faire bientôt 2 ans que j'ai pris conscience des viols par fellation. Avant, je l'ignorais totalement.
Donc on parle bien, vous me parliez hors antenne pour préparer un peu ces différents entretiens, que c'était une amnésie de protection.
Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Et les troubles dont je souffre, les médecins appellent ça des troubles de conversion. Et moi, comme j'ai dit tout à l'heure, je le redis, je pense que c'est l'Église catholique qui devrait faire sa conversion à l'Évangile dont elle se réclame.
Merci d'être intervenue, Marie-Hélène, pour cette prise de parole. Donc je rappelle que cette série n'est pas une attaque contre l'Église catholique, contre la foi. C'est une parole simplement de vérité pour la protection des enfants. Vous êtes d'accord avec moi, Marie-Hélène ?
Tout à fait.
Alors pour vous, on peut dire que cette dame qui est à vos côtés, hors antenne, hein, n'hésitez pas à dire que vous avez aussi un bon caractère, vous avez votre personnalité, un caractère fort. Est-ce que ça a été un atout pour rester, permettez-moi, mais rester debout et ne pas vous écrouler comme beaucoup ?
Là, je vous dis, là, oui, pour rester debout, il faut avoir un caractère comme j'ai, que m'a donné ma grand-mère.
Cette fameuse grand-mère, et puis
je fais toujours référence à ma grand-mère.
Vous faites référence presque à toutes les pages. Mais
ma grand-mère, elle est présente du début à la fin.
Ouais.
Ma grand-mère est omniprésente.
Votre grand-mère vous a cru.
Ma grand-mère
m'a cru. Vous avez libéré la parole.
Elle a libéré la parole. Quand ils sont venus pour lui saisir ses biens, ils sont venus à 4, ils sont venus en lui disant, si cette affaire a une suite, on vous fera saisir vos biens.
Alors, c'était qui
Vous aviez Destison qui conduisait la voiture, et vous aviez le directeur de l'Apostolica qui était là, et ils lui ont dit, si cette affaire a des suites, on vous fera saisir vos biens. Vous imaginez, on était les miséreux. Les miséreux, on vivait en autarcie. On vivait de ce qu'on avait à la maison. Et quand elle a entendu ça, elle a dit, mais où on va aller? Puisque c'était la maison de famille. Où on va aller? Elle était affolée. Mais son courage a fait qu'elle a été voir les gendarmes, elle a été voir le maire, elle a été voir les voisins, tous les amis. Et tout le monde a dit, les gendarmes, eux, pour éviter une procédure, ils ont dit, non. Le maire, il a dit, on ne s'attaque pas au curé. Les voisins ont fait la même chose, les amis ont fait la même chose, c'est-à-dire qu'elle s'est retrouvée toute seule. Mais elle s'est retrouvée toute seule sans jamais baisser les bras. Ce qui est admirable, parce que je vois ce que c'est de témoigner depuis que je témoigne. Eh bien, elle est partie, et j'aurais aimé qu'elle sache que j'ai été entendu, puisque j'ai été entendu par la CRR, reconnue victime et indemnisée.
Alors, vous avez été reconnue récemment.
Oui, j'ai été reconnue en 2023 et j'ai été indemnisée début 2023.
Est-ce que cette reconnaissance, on y reviendra bien sûr au cours de cette série de la semaine, cette reconnaissance a été importante pour vous ?
Moi, pour moi, ce qui a été le plus important, ce n'est pas l'indemnisation. C'est la lettre que j'ai reçue, bon, qui est une lettre polycopiée, hein, je vous rassure. Les curés n'ont pas le moyen de faire une lettre à chacun. Donc c'est une lettre polycopiée, il faut que changer le nom. Et donc, où ils disent là qu'ils s'excusent, enfin une lettre, pour moi je l'ai qualifiée de bidon, parce que c'est une lettre qu'ils envoient la même à tout le monde. Donc, elle n'est pas faite pour moi, Delbos. Elle est faite pour, s'il y a d'autres victimes, pour faire la même lettre à tout le monde. Et moi, je dis que dans mon combat, de recevoir cette lettre, c'est un truc exceptionnel. Et la première des choses que j'ai fait, c'est d'aller sur la tombe de mes parents et leur dire, ça y est, c'est fait, j'ai la lettre. Soyez contents, parce que c'est grâce à vous que je suis là. Et la première des choses que j'ai fait après mes indemnités, c'est de faire refaire le caveau. J'ai fait refaire un truc normal qui leur convient.
Alors, les faits remontent, c'était il y a 69 ans.
Voilà.
Vous avez été patient et vous êtes resté debout. Et oui. Au fond, un peu comme cette grand-mère qui vous avait montré l'exemple, vous êtes entré dans l'arène comme un guerrier pour combattre.
Je suis un guerrier.
Est-ce qu'on peut parler combattre des ennemis ?
Voilà. Mais il faut faire la différence entre les ennemis. C'est-à-dire mais ceux qui ont été des traîtres pour nous, qui nous ont violés, qui nous ont fait des choses inadmissibles. Mais on trouve dans le milieu des prêtres des gens exceptionnels. Voilà, moi j'ai trouvé, et je suis très heureux d'en parler, pour ceux qui le connaissent, mais c'est Monseigneur Mika. Bon, je dis Monseigneur, je ne lui dis pas Monseigneur, je dis Monsieur Mika. Mais Monsieur Mika, pour moi, est un homme exceptionnel. C'est un gars qui m'a cru, qui a été indigné par ce qui s'est passé, qui a été indigné du fait qu'il vienne saisir les biens de ma grand-mère. Et pour moi, c'est le seul prélat, allez, je vais dire le mot.
Vous l'avez dit, bravo.
Voilà, le seul
alors là,
prélat,
bravo, oui.
Honnête.
Avec ce cœur de pasteur et ce cœur de père.
Voilà,
on en parlait avant cette émission.
C'est un vrai.
Alors pour ceux qui nous écoutent, qui ne connaissent peut-être pas Monseigneur Jean-Marc Mika, je précise que c'est l'évêque du diocèse de Tarbes-Lourdes. Et puis je vais vous inviter, Jean-Marc Delbos et Marie-Hélène, à vous retrouver dès demain dans cette même émission pour une troisième rencontre des clés pour vivre. Merci à tous les deux. À demain.
Merci.
Merci.
Thank you.